Et comme chaque vendredi, eh ben nous prenons des livres. Je me rends à la librairie Calligramme, je m'installe sur le fauteuil. Il y a Sandrine qui est devant moi. Bonjour Sandrine.
Bonjour Yannick.
Sandrine qui a son jour de gloire aujourd'hui sur l'antenne de CFM, parce que depuis un mois, elle avait parié, une semaine, on ne va pas exagérer non plus, elle avait parié sur le prix Goncourt en disant que ça serait...
La plus secrète mémoire des hommes de Mohamed Mougar Sarr.
Et vous savez quoi ? Eh ben cette semaine, c'est effectivement lui qui a été sélectionné et qui est le prix Goncourt. Alors ça veut dire déjà que les imprimeries sont en train de tourner à donf déjà.
Ah, les rotatives.
Non seulement pour imprimer le livre, mais aussi le petit bandeau que vous n'avez pas reçu encore. Du coup.
Exactement. Mais ceci est un service de presse.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que l'éditeur nous l'a envoyé pour qu'on puisse le lire.
Ah, vous l'avez pas encore en vente ?
Ah si, il est en vente, mais on l'a reçu cet été.
D'accord.
Dans la pile de services de presse, celui-ci était dans ma pile.
Alors, on est toujours très attentif aux conseils lecture que tu nous donnes. Sandrine, pourquoi il t'a plu ce livre de, comment on dit, Mohamed Mougar.
Le M, il est muet, c'est Mougar.
Mougar.
C'est comme quand on dit Mbappé, on dit Mbappé.
Ouais, mais tu sais, moi, le foot, je préfère encore les livres au foot. Alors du coup,
comparaison qui parlera à certains d'entre vous.
D'accord, très bien. Alors, pourquoi il t'a plu ce livre? Pourquoi tu pensais que ça allait être le livre?
Je vais tout vous dire. Le pronostic disait que ce serait entre Sœur Chalandon, Enfant de Salaud, et celui-ci. Ils étaient parmi les favoris.
Sœur Chalandon, dont tu nous as parlé.
Enfant de Salaud, je vous en ai déjà parlé.
Oui.
Enfant de Salaud, que j'ai beaucoup aimé aussi. Le récit, je l'ai trouvé incroyable. Mais celui-ci, je le trouve plus original, tant dans le fond que dans la forme. Foisonnant. Je trouve que l'Académie, là, elle remet un prix à un auteur qui a vraiment fait un récit qui est très original. Elle fait un pari, elle prime un jeune auteur. Je trouve que c'est vraiment très, très bien.
Et parce qu'il a quoi, 31 ans
31
déjà
ans, oui.
C'est son premier livre?
Non, c'est son, je crois, c'est 4 ou 6e, je ne sais plus. Il a écrit Terre Sainte. Il avait eu le prix Amadou Kourouma, qui est un prix prestigieux. Silence du cœur et De purs hommes. Donc, c'est son 4e.
Et là, le Goncourt, c'est le Graal, en gros.
C'est le Graal.
C'est, ouais.
Alors, en fait, La plus secrète mémoire des hommes, c'est presque une mise en abîme. C'est presque un roman dans un roman. En fait, le personnage principal, Diegan, on est en 2018, va partir sur les traces d'un auteur mystérieux, Eliman, qui a écrit en 1938 un livre qui s'appelle Le labyrinthe de l'inhumain. C'est un livre très mystérieux qui serait le roman ultime, le récit ultime que tout auteur rêverait d'écrire. Et c'est un livre qui a été vite retiré des lieux où il a été mis en vente, puisqu'il a été accusé de plagiat. Et donc il reste quelques copies et le personnage principal va essayer de retrouver des lecteurs ou bien des gens qui pourraient l'emmener vers Eliman. Et il y a tout un mystère qui entoure donc le roman et l'auteur. Et sans jamais perdre le fil, Mohamed arrive à nous emmener dans un roman complètement labyrinthique où on change d'époque et de lieu très régulièrement et on ne perd jamais le fil. C'est-à-dire qu'on pourrait penser que c'est complexe, qu'à un moment donné, on a du mal à retomber sur nos pattes, et jamais. Et il y a une forme d'écriture qui est assez varié, il y a des lettres, le récit est vraiment foisonnant. Je trouve que pour l'écrivain, je pensais à l'écrivain pendant que je le lisais, je me dis, pour réussir à construire un récit de cette sorte, il faut être forcément concentré quand on écrit, mais là je trouve, pour ne pas perdre le fil et pour ne pas nous perdre non plus, il a fait fort, vraiment. Et donc on va aller, on va suivre Diegan qui... au cours de cette quête, va aussi en discuter avec un club de jeunes auteurs africains dont il fait partie. Et ils ont des discussions régulières, tant sur ce livre-là, sur justement le récit ultime que tout le monde rêverait d'écrire, et puis sur la vie, sur aussi comment sont vus les auteurs d'origine africaine dans le monde francophone. Donc il y a un petit peu de cynisme sur le monde littéraire que j'ai trouvé très juste et pertinent. C'est aussi très drôle par moments. Et c'est ce que disait l'éditeur dans la quatrième de couverture, un chant d'amour à la littérature, vraiment. Parce que ce récit que je dis foisonnant, il est foisonnant tant au niveau de l'écriture que du contenu, que ce soit quand on est en train de mener l'enquête avec Diegan pour savoir qui est Illiman, où a-t-il disparu pour essayer de le retrouver. Et en même temps, il en profite pour glisser des citations et faire référence à des auteurs qui ont vraiment existé, ce qui fait que ça fait un récit qui est vraiment très très riche.
Qu'est-ce qu'il a de plus ce livre parce qu'il est en concurrence avec Enfant de salaud de Sœur Chalandon, qui n'était quand même pas un petit roman. Hein. Tu nous en as fait l'éloge, on s'en souvient, c'est quelque chose que t'as adoré. Qu'est-ce qui a fait en sorte que finalement ça a penché plus pour ce livre, La plus secrète mémoire des hommes?
Je pense que là, il prenait un... Je trouve qu'il y a un pari, c'est-à-dire que ce que disaient certains journalistes, c'est que le Goncourt revient à ses origines. Le but, c'est de primer un auteur prometteur pour ensuite qu'il soit plus connu par le public. Sœur Chalandon, il est déjà connu. Son récit, Sœur Chalandon, pour moi, il est à son meilleur quand il écrit Enfant de salaud. Mais le mode de narration est plus classique. Je trouve qu'ici, il y a un travail d'écriture. Je ne veux pas comparer les deux, parce que les deux sont très différents et les deux m'ont plu.
Oui, mais ils ont bien été obligés, le jury, de faire un choix, finalement.
Et oui, après, moi, je ne suis pas dans le jury, donc je ne sais pas. Moi, je trouve qu'ici, c'est plus original. Peut-être qu'il y a un clin d'œil aussi au fait qu'en 1921, c'est l'Académie Goncourt a primé le premier... Je crois que c'était le premier auteur noir qui avait le prix Goncourt, en 1921. Il y a peut-être un peu de tout ça.
Et puis il y a aussi un truc, je pense, un détail qui a son importance, c'est la maison d'édition.
Oui, alors là, ils font le choix de primer une plus petite maison d'édition.
Parce que d'habitude, c'est vrai que...
Oui, de mettre Philippe Rey. C'est coédité, c'est Philippe Rey et Jimson.
Maison d'édition que l'on ne connaît pas spécialement, du coup, d'après toi?
Si, quand
moins
même.
Que les gros...
Mais moins que Gallimard et Grasset, bien sûr. Oui.
Quand le service de presse vous a donné ce livre, est-ce qu'il vous avait dit que c'était en... Il le savait que c'était en... Comment dirais-je...
Il n'était pas encore en lice pour les prix littéraires.
Voilà. D'accord.
Mais très vite, en septembre-octobre, il y a eu des papiers très élogieux au sujet de ce roman.
Bon, toi, tu n'as pas fini de le lire, hein, ce que j'ai compris, mais tu as été...
Il ne me reste que 80 pages. Je l'ai commencé pendant les vacances et je n'ai pas réussi à m'arrêter.
Bon, bah, très bien. Eh bien, ça s'appelle « La plus secrète mémoire des hommes » de Mohamed Mougar-Sarr. C'est aux éditions Philippe Rey, Jimson, on dit.
Oui.
Et c'est le prix Goncourt qui vient d'être élu, donc bientôt dans... Alors, vous l'avez déjà en librairie, mais si vous voulez, en règle générale, vous l'avez au bout de combien de temps, le bandeau il arrive dans les combien de temps, là?
Mais en fait, déjà, on n'a plus de...
Ah, il n'y a plus, d'accord.
Là, forcément.
Ah, tu veux dire depuis qu'il a été nommé?
Oui, là, on a vendu ce qui nous restait hier.
Ah
on
oui.
On n'en a plus.
D'accord, très bien. Et si donc vous allez en recevoir, parce qu'on fait cette chronique.
On va en recevoir,
donc,
j'espère, la semaine prochaine.
D'accord, très bien. Mmh. S'il n'y a pas de pénurie de papier, si.
Non, sur les
ça, on rentre dans un autre débat. Y a-t-il un autre livre, Sandrine, à
oui,
nous proposer?
Oui, alors là, je fais une bascule, je fais un 360. Je vous parle d'un album jeunesse, puisque c'est bientôt Noël, et que vous êtes peut-être à la recherche d'idées de livres à offrir à vos enfants ou petits-enfants. Et mon gros coup de cœur cette année, ça s'appelle « Le livre des arbres et plantes qui restent à découvrir bon, » chez Actes Sud Junior.
Une maison d'édition que tu aimes énormément.
Et de Olivier Talec, qui est un auteur-dessinateur que j'aime beaucoup aussi. Alors là, quand je vous dis le titre « Le livre des arbres et des plantes qui restent à découvrir », vous dites « Ouh là là, un documentaire
un écolo !»
Un documentaire très ronronnant sur la nature. Est-ce ça que j'avais prévu d'offrir à mon enfant? Moi, je voulais quelque chose de drôle. Et là, je vais vous dire « Mais justement, c'est celui-ci qu'il faut lui prendre !» Alors, l'année dernière, j'avais beaucoup conseillé à des clients de l'ABCDR des métiers imaginaires, qui étaient complètement foutraques et qui parlaient de l'inspecteur des chaussettes perdues et de l'empêcheur de tourner en rond. Et celui-ci, c'est dans le même esprit, c'est-à-dire que je vais vous présenter des arbres et des plantes qui restent à découvrir. Je vais vous en donner deux pour que vous puissiez avoir le ton du livre. Je vous ai cité mes préférés. Le premier, c'est le chaussetier ou saule pleureur à chaussettes. Mmh. On dit qu'on y trouve toutes les chaussettes perdues et celles qui avaient disparu sous le lit. D'ailleurs, c'est un arbre qui ne sent pas toujours très bon. Mmh. Il n'y a que les canards qui osent s'en approcher en retenant leur respiration.
Donc il y a le dessin avec, c'est écrit en gros, il faut le savoir, c'est que à gauche vous avez le texte et puis à droite le dessin.
Illustration.
Illustration, c'est un très grand livre en plus. Mmh. Donc du coup voilà, d'accord. Le chaussetier. Mmh.
Et mon deuxième et mon préféré, c'est l'arbre à marteau. Combien de fois faudra-t-il le dire ? On ne fait jamais la sieste sous un arbre à marteau.
Donc on voit
pourquoi
effectivement,
ne faut-il pas faire de sieste sous un arbre à marteau.
Parce qu'on voit effectivement des marques, les fruits de l'arbre. Déjà l'arbre il est penché et le fruit de l'arbre c'est le marteau. Et forcément quand on fait la sieste en dessous, déjà le gars qui fait la sieste en dessous, il a des bandages un peu partout. Hein. Mmh. Mais il insiste, hein,
il doit aimer. Il est un peu cramé d'ailleurs, je crois.
Il est un peu cramé aussi, ouais. Donc il doit aimer. Et pourquoi il te plaît celui-là, l'arbre à marteau ?
Parce que il me fait rire avec le personnage qui a plein de bandages et puis je sais pas, je trouve que c'est un des plus drôles, mais ils sont tous très drôles. Donc il y en a plein là et voilà, la télé ou arbre écran. Quand on passe trop de temps devant un arbre écran, on devient tout mou, on a les yeux rouges, les oreilles qui bourdonnent, très chaud à la tête et on n'arrive plus à s'endormir.
Bon, et il y a combien de pages, combien d'arbres
Combien d'arbres, je ne sais plus, il y en a une bonne dizaine au moins. Le livre est à 17 euros.
Et à partir de quel âge?
Alors ça, je pense que vous pouvez à partir de, je dirais, 5 ans au plus tôt. Je dirais 5, pour moi, c'est pour les 5-7.
Ça, c'est le genre de livre typique pour lire, quand l'enfant est au lit, quoi.
Exactement.
Avant de s'endormir. C'est les parents qui racontent l'histoire.
Oui, ou alors en pleine journée, si votre enfant a du mal à s'endormir parce qu'il a trop rigolé avec tous ces arbres qui sont complètement fantasques.
D'accord. Le livre des arbres et plantes qui restent à découvrir d'Olivier Talec aux éditions Actes Sud. Cette fois, c'est vraiment pour les enfants. Puis finalement, je crois que les parents vont s'amuser à le lire avec les enfants aussi. D'ailleurs, la preuve en est, Sandrine, c'est bien Marie. Tu l'as lu à ta fille ?
Non, elle n'a que 3 ans.
Ah, donc il faudra attendre 2 ans.
Je préfère, ouais, je pense que. Mais par contre, je vais l'acheter au cas où ils sont en rupture quand elle aura 5 ans.
On ne va pas rentrer dans le détail des ruptures, mais il y en a pas mal qui disent, qui conseillent, prenez vos précautions pour vos achats de Noël, on risque d'être embêté. Vrai ou faux ?
Vrai. Si vous savez déjà ce que vous souhaitez offrir à vos proches, je vous conseille déjà de vous en occuper. On a les éditeurs qui nous alertent depuis quelques semaines sur les risques de rupture et on a déjà quelques livres, alors ils ne sont pas nombreux, qui sont déjà en rupture jusqu'à janvier 2022.
Oui, mais c'est peut-être...
Donc nous, on a commandé des quantités, notamment sur nos coups de cœur, mais on n'est pas à l'abri d'avoir des ruptures sur certains titres. Alors, on le dit chaque année, il vaut mieux s'y prendre tôt. Cette année, c'est un peu particulier, il vaut mieux s'y prendre le plus tôt possible pour être sûr d'avoir les livres que vous souhaitez.
Oui, mais ça, c'est peut-être un coup des lobbies, des libraires et des maisons d'édition pour qu'on achète plus
de
livres.
C'est un
complot. C'est un complot, si ça se trouve.
Ben, il se trouve qu'effectivement, il y a des livres, on essaye de les commander, on ne peut pas les avoir.
Bon, merci Sandrine.
Merci Yannick.
À bientôt.
À bientôt.